10 questions à une émission de Fréquence Mistral en partenariat avec l'école de la deuxième chance des Alpes de Haute-Provence.
Et bonjour à toutes et à tous, nous sommes toujours en plateau depuis le centre astronomique de Saint-Michel l'Observatoire, au planétarium plus exactement. On est en très bonne compagnie puisqu'il y a avec nous Romuald Coutenceau qui est médiateur scientifique. Bonjour Romuald, vous êtes médiateur scientifique et coordinateur du centre astronomique. Et puis à ma gauche, j'ai avec moi Aaron de l'école de la deuxième chance qui va poser des questions à Romuald et également Léa, qui est elle aussi de l'école de la deuxième chance, qui va poser elle aussi des questions à Romuald. Je vous laisse la parole tous les deux. Bonjour à tous les deux. Je vous laisse la parole pour interroger Romuald.
J'aurai ma première question. Pourriez-vous vous présenter et nous reparler les temps forts de vos parcours ?
Donc, je suis médiateur scientifique ici au Centre astronomique de Saint-Michel Observatoire depuis une quinzaine d'années. Alors, médiateur scientifique, c'est toujours quelque chose un peu... Je ne sais pas trop ce que c'est. J'aurais tendance à dire qu'on est pasteur des savoirs. Hein, c'est-à-dire que vous avez les chercheurs d'un côté qui n'ont pas forcément la possibilité d'être face publique. Et il y a le public qui s'intéresse au sujet, qui peut être astronomie, qui peut être d'autres sujets. Et nous, on est entre ces deux populations pour faire le, relais. Voilà. Donc, on va accueillir des écoles, on va accueillir le public. Par exemple, demain, à l'occasion du Village des Sciences, voilà, on peut accueillir des groupes. Voilà. Et au niveau parcours, effectivement, c'est un parcours d'abord d'études. Et c'est au cours de ces études qu'effectivement, je me suis intéressé à ce métier que je fais depuis un peu plus de 20 ans maintenant.
Je fais la deuxième question, excusez-moi. Avez-vous vu relever des défis ? Lesquels dans ce cas-là ?
Oui, il y a toujours des défis plus ou moins importants. Le premier défi pour un médiateur, c'est d'être capable de s'adresser à tous les publics. Hein, vous le voyez aujourd'hui sur le site, on a essentiellement donc des élèves, mais on a des élèves qui, à partir de 3 ans, jusqu'à un niveau collège. Donc, effectivement, on ne s'adresse pas à ces enfants-là de la même manière. Et donc, c'est un premier défi, d'être capable de s'adresser à des enfants de 3 ans. Ils n'ont pas le même niveau de compréhension, ils n'ont pas le même bagage scientifique, en ce qui nous concerne, qu'un collégien ou un lycéen ou même un adulte. Voilà.
Depuis quand vous êtes passionné d'astronomie ?
Alors, depuis très longtemps, comme on dit, depuis que je suis petit, depuis que j'ai une dizaine d'années, voilà, je me suis intéressé à l'astronomie. Et c'est à la fois cette passion pour l'astronomie, mon vécu en association d'astronomie amateur et mes études qui m'ont conduit justement à faire ce métier. Voilà, l'envie de partager.
Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est le métier de médiateur scientifique et quelles sont les compétences essentielles et la professionnelle ?
Alors, donc médiateur scientifique, comme je vous disais tout à l'heure, c'est de pouvoir faire ce passage entre la recherche et le public. Donc, on peut utiliser différents moyens, différents outils. Je peux répondre à la suite de votre question, s'il vous plaît. Je l'ai oublié.
Quelle est la compétence essentielle de la professionnelle ?
Alors, la compétence essentielle, savoir s'adresser au public. Voilà. Alors qu'il ne suffit pas de détenir la connaissance, il faut être capable de la diffuser. Donc, et de s'adresser au public. Typiquement, le cœur de notre métier, c'est d'être face aux gens, face aux enfants. Et donc, effectivement, si vous avez les jambes qui flageolent, si vous bégayez, si vous tremblez de partout, si vous n'êtes pas capable d'aligner deux mots de suite, vous ne pourrez pas être médiateur scientifique. Vous avez le droit d'être stressé, d'ailleurs, ça peut être quelque chose de bon, parce que c'est souvent le stress quelque chose qui vous amène à corriger ces petites choses et à être parfois un bon orateur.
D'accord. Excusez-moi, je vais revenir sur une de vos questions avant. C'est qu'on vous a expliqué comme quoi vous avez fait des études. Est-ce que vous pouvez nous préciser sur quelle étude vous avez fait ?
Alors, des études qui n'ont pas tout à fait à voir avec ce que je fais aujourd'hui, puisque aujourd'hui, donc, je fais de la médiation en astronomie et moi, j'ai fait des études en biologie. Voilà. Alors, il y a quand même quelque chose, un point qui rejoint, c'est que c'est quand même une discipline scientifique.
Et vous avez dit que vous travaillez avec un public. Du coup, d'où c'est venu ? travailler avec un public?
Mais je l'ai dit de manière partielle. J'ai un parcours d'étudiant, hein, j'ai fait des études, ce qui m'a donné les connaissances scientifiques et le savoir scientifique. Et à côté de ça, donc, je faisais partie d'une association d'astronomes amateurs qui m'a amené à être au contact aussi du public et à expliquer ce qu'était l'univers, ce qu'on y trouvait, comment fonctionnait, ce qu'était une planète, comment un système solaire ça fonctionnait. Et finalement, les deux se sont rejoints. À la fois le plaisir que j'éprouvais au sein de la station d'aller, par exemple, dans les écoles ou au contact du public pour expliquer l'astronomie, et de l'autre, donc, les connaissances que j'ai pu acquérir donc, pendant tout ce parcours.
Je vous remercie. Voilà.
Quelles sont vos missions exactes au sein du Centre d'astronomie de Saint-Michel-l'Observatoire ?
Alors la première, c'est la médiation scientifique, c'est donc l'accueil des publics. Et donc ici sur le terrain, avec tous les outils que nous avons, que ce soit les télescopes, que ce soit les présentations, les maquettes, c'est de pouvoir parler de l'univers, de pouvoir parler astronomie. Ça, c'est la première mission. Après, ici, chacun d'entre nous avons des missions annexes. Donc moi, une autre grosse mission, en plus de celle de la médiation, c'est la coordination de la fédération au niveau départemental. Donc ça consiste à organiser sur le département et à mettre en mouvement cette impulsion pour que des associations, des laboratoires ou d'autres structures eh bien, viennent s'associer donc à cet événement qui est la Fête de la Science pour pouvoir organiser dans le département des rendez-vous avec le public comme les villages des sciences, comme des visites de sites qui vont être sur certains week-ends pendant cette période du 4 au 14 octobre pour cette année. Donc voilà, c'est ça l'émission principale que j'ai au sein du Centre d'astronomie.
Quelle formation sert au quotidien le plus dans votre métier actuel ?
La formation qui sert le plus ? Mes compétences scientifiques, puisque c'est le cœur de mon discours. Après, le savoir s'exprimer, c'est quelque chose que j'ai mis en place, qui s'est structuré au fur et à mesure que j'ai progressé dans le métier. Voilà, quand on débute, effectivement, on est un peu hésitant, on est plein de stress, peut-être des fois on n'a pas envie d'y aller, ou on y va en reculant. Et puis à force de choses, on se sent de mieux en mieux, et puis on s'aperçoit que tiens, là, on apprend de ses erreurs, en fait. On se dit tiens, là, j'ai pas été bon, comment je peux faire la prochaine fois pour être meilleur ? Et puis voilà, donc c'est par l'expérience des années.
Je vous remercie. Du coup, la deuxième question que je vais vous poser là est totalement en rapport avec votre fin de phrase. Quelle est votre expérience du coup qui vous a le plus marqué ou pratique ?
Alors, il y en a plusieurs dans ma carrière qui m'ont marqué. Celle qui m'a le plus marqué, je disais, on travaille beaucoup avec les enfants, et avec les enfants, c'est tout de suite très très fort. D'autant plus qu'on a la chance ici, quand on travaille au Centre d'astronomie, de pouvoir travailler avec les écoles, pas uniquement de Saint-Michel, de Manosque ou de Fort-Calquier, mais vraiment avec les écoles de la France entière. Et j'ai eu l'occasion dans le passé de travailler avec des écoles qui venaient de Paris, donc qui sont dans un tout autre milieu, hein, qui connaissent pour certaines uniquement le béton. Donc quand elles arrivent ici sur le terrain, là, c'est quand même dépaysé. Et des enfants qui allaient descendre du bus avaient peur de descendre du bus d'ailleurs. Et qui à la fin du séjour pleuraient de repartir. Et de pleurer en disant adieu paradis. Et ça, c'est fort. Ça, c'est fort, c'est une expérience. Ouais. On se dit qu'on a apporté quelque chose aux enfants. Et ça fait du bien, ça fait plaisir.
Ça fait réfléchir.
Voilà. Ouais.
Pouvez-vous expliquer ce que c'est la fête de la science, depuis quand elle existe et de quel objet ?
Alors, la fête de la science, vous m'excuserez, je ne vais pas être très précis, mais elle existe depuis un peu plus de 30 ans maintenant. Et le principe de cet événement, c'est un événement national, aussi bien en France métropolitaine que en Outre-mer, avec des dates qui sont différentes entre l'Outre-mer et puis la métropole. Mais le but est le même, c'est un grand rendez-vous entre la science, les chercheurs, ceux qui font la science et qui vivent la science, et tout un chacun. Voilà. Donc sur cette presque deux semaines, hein, du 4, je rappelle du 4 au 14 octobre, le public va être invité à aller sur toutes ces manifestations. Ils vont pouvoir aller à la rencontre des chercheurs, des associations, voilà, toutes ces personnes qui contribuent effectivement à la recherche, à la connaissance sur différents sujets. Et chaque année, donc, au niveau national, est décidée une thématique. Cette année, la thématique, c'est Océan de savoir. Alors, il peut s'interpréter de deux manières. Soit on peut parler uniquement océan, le milieu de la mer. Et puis, océan de savoir, c'est aussi c'est cet ensemble de connaissances que l'humanité a accumulées. Donc, ça permet aussi de ne pas parler uniquement d'environnement marin, mais de parler, par exemple, de l'informatique, puisque ça fait partie de toutes ces connaissances, de parler de préhistoire, voilà, des thématiques qu'on retrouvera ici à Saint-Michel et en d'autres lieux.
Vous êtes formateur et relais pour le programme Fripon Vigiciel. Pouvez-vous nous en dire plus sur ceci ?
Tout à fait. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, on a, quand on travaille ici à Saint-Michel, plusieurs missions. La première, c'est celle de médiateur scientifique. Et donc, à celle que j'ai déjà citée, il y a celle-ci, c'est que ma passion de l'astronomie m'a amené à m'intéresser aux météorites. Et en 2018, on m'a proposé de suivre la formation donc, de ce programme de sciences participatives, qui est le projet donc, Fripon Vigiciel. Alors, c'est un programme qui est mené par le Muséum d'Histoire Naturelle de Paris, et dont l'idée, c'est donc science participative, c'est-à-dire que la science ne soit pas faite là uniquement par les chercheurs, mais que tout un chacun puisse devenir lui-même, quelque part, pendant un instant, chercheur, ou contribuer du moins à la recherche. Donc ici, c'est dans le domaine des météorites. Et donc, l'idée plus précisément de ce programme-là, c'est de former toutes les personnes qui peuvent être intéressées à reconnaître une météorite, à distinguer une météorite d'une roche terrestre, puisqu'il y a entre 30 000 et 100 000 tonnes de roches qui tombent chaque année de l'espace, que ces 30 à 100 000 tonnes sont équitablement réparties sur l'ensemble du globe, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas plus qui tombent dans les déserts qu'il n'en tombe ici en France. Simplement, la difficulté, c'est que dans un désert où c'est plutôt plat et toujours plutôt uniforme niveau couleur, c'est plus facile de repérer qu'ici en France, par exemple, où vous allez avoir une diversité de couleurs, vous allez avoir les champs, vous allez avoir les haies, vous allez avoir des habitations, tout ça va vous gêner à la prospection. Et donc, c'est le jour, comme il y avait pu y avoir ces dernières semaines, ces derniers mois, on détecte une entrée atmosphérique, c'est que ces gens qui ont été formés puissent aller sur le terrain, faire une battue, rechercher ce matériau, et pouvoir le ramener après en laboratoire pour que les chercheurs, eux, ensuite, puissent analyser ces roches. L'intérêt d'avoir ces roches de manière précoce, une fois la chute effectuée, et pas des milliers d'années après, c'est que ces roches sur le sol, elles vont se terrestrialiser. C'est-à-dire qu'elles vont, petit à petit se contaminer de l'environnement terrestre. Elles vont perdre un petit peu leurs caractéristiques de météorites, et on va perdre beaucoup d'informations. Plus on les récupère tôt, c'est comme si on les récupérait directement dans l'espace. Donc on les récupère avec leur histoire, qui est l'histoire du système solaire. Et les météorites sont la mémoire du système solaire. Elles ont enregistré au moment où elles se sont formées. Elles ont enregistré les conditions qui étaient celles du système solaire. Donc on peut, à partir de là, reconstituer l'histoire du système solaire. Et c'est ça l'objectif du programme, si on devait le résumer. C'est ramener des météorites fraîches dans les laboratoires.
Bonjour, merci. J'ai une petite question. Du coup, quand vous récupérez le météorite, vous avez dit que vous analysez, avant qu'il se corrompe, mais c'est pas le mot exact, c'est le mot
terrestrialisé,
mais
qu'elle soit contaminée. Oui.
Contaminée. Vous entendez quoi précisément par contaminée ? Et aussi, j'aurais une question. Vous avez parlé d'histoire. Est-ce que vous avez le droit de nous dire si vous avez reçu des documents, des trucs qui nous attesteraient d'autres planètes ou des météorites qui viennent de plus loin de notre système solaire?
Alors, pour répondre à cette dernière question, on est ici à Saint-Michel Observatoire. Je rappellerai qu'en 1995, c'est à l'observatoire que fut découverte la première planète en orbite autour d'une autre étoile que le Soleil, donc en dehors du système solaire. À cette date, et grâce au travail des nombreuses équipes à travers le monde, on connaît maintenant plus de 7000 planètes autour d'autres étoiles que le Soleil, ce qu'on appelle des exoplanètes. Donc aujourd'hui, c'est une preuve, c'est une certitude. On arrive même, dans certains cas, encore peu nombreux pour le moment, mais ça va venir dans les années futures, on arrive même à faire quelques-unes des photos de ces planètes. Alors, quand je dis photo, la planète va ressembler à un point autour d'une étoile qui est elle-même un point. Mais on est capable de voir et de prouver qu'on a affaire à des planètes. Donc ça, c'est une certitude. La première partie de votre question, si vous voulez bien me la rappeler, s'il vous plaît.
Alors, c'était une question, qu'est-ce que vous entendez précisément par maladif ? Est-ce qu'elles perdent sa valeur ou autre chose ?
Sur les météorites. Donc le fait d'être contaminé. Le fait d'être contaminé, c'est effectivement, elles vont simplement être roulées par le vent, par exemple. Donc une caractéristique principale de reconnaissance des météorites, c'est ce qu'on appelle la croûte de fusion. C'est-à-dire qu'en traversant l'atmosphère, elles ont chauffé, la roche a fondu, et quand elles arrivent au sol, cette roche qui a fondu va laisser une fine pellicule, comme un vernis, d'une roche fondue, quoi. Et si vous laissez cette roche des dizaines, des centaines d'années, à force de vent, de pluie et autres, elle va perdre par exemple cette caractéristique. Voilà. Pour ceux qui seraient intéressés à chercher des météorites, je vous dirais aussi, surtout, s'il vous plaît, n'utilisez pas d'aimants, surtout pas d'aimants, parce que les météorites contiennent toutes plus ou moins un petit peu de fer. Et ces petits grains de fer, ils ont mémorisé le champ magnétique du système solaire au moment où ils se sont formés. Et le fait d'utiliser un aimant, c'est, pour ceux qui s'en souviennent, quand on avait une cassette VHS, un aimant sur une VHS, vous effacez la bande d'un seul coup en une fraction de seconde. Et là, vous effacez une page de l'histoire du système solaire en une fraction de seconde avec un aimant sur le météorite. Voilà. Et donc, c'est toutes ces choses-là, toutes ces caractéristiques-là qu'elles peuvent perdre au cours du temps à être sur Terre. Voilà. Le fait qu'on ne puisse plus distinguer d'une roche terrestre et qu'elles perdent aussi des informations qu'elles avaient accumulées au moment de leur formation.
Je vous remercie.
Comment faire si on souhaite se former et dans quelles conditions ?
Alors, déjà, la première chose qu'on peut faire dans ce programme Vigiciel, c'est qu'il existe un site en ligne où, si vous avez observé un bolide, donc une rentrée atmosphérique, vous pouvez signaler, effectivement, en renseignant un peu les conditions, notamment le lieu, l'heure à laquelle vous avez observé, dans quelle direction, la durée, s'il y avait de la couleur, s'il y avait du son. Voilà, c'est un petit formulaire simple, voilà, qui permet d'alimenter une banque. Et si jamais il y a eu d'autres observations qui corroborent la vôtre, eh bien, ça peut amener à déclencher finalement une recherche, parce que ça signifierait qu'effectivement il y a bien quelque chose qui est arrivé au sol. Ça, c'est une première. Après, dans chaque région, il y a donc un responsable régional de ce programme. Et donc, auprès de ces relais régionaux, on peut se former, puisque chaque région a été équipée de mallettes pédagogiques pour justement former les personnes qui le souhaitent à reconnaître, justement, à distinguer les météorites des roches terrestres.
Okay. Et j'ai une dernière question. Quels sont les projets à venir pour le Centre Astro ?
Alors, les projets à venir pour le Centre Astronomie, nous sommes en train de rentrer dans le programme automne-hiver. Donc, on a déjà travaillé à la programmation, c'est-à-dire à tout ce qu'on va pouvoir proposer au public. Donc, soirée d'observation, observation du soleil. Les projets aujourd'hui, c'est de pouvoir accueillir et toujours plus d'écoles, voilà, puisque c'est la fonction effectivement première du site. Il n'y a pas d'énormes projets aujourd'hui. Et puis c'est aussi dans les projets, c'est de continuer le partenariat avec l'Observatoire, d'avoir une synergie pour travailler ensemble justement à promouvoir l'astronomie.
Voilà. Ah, voilà.
Ce plateau touche à sa fin. Merci beaucoup à Ron et Léa pour leurs excellentes questions. Merci beaucoup Romuald Coutenceau d'avoir répondu à toutes ces questions.
Merci à vous de m'avoir invité.
Et moi, j'avais une dernière petite curiosité. Vous, en tant que médiateur, qu'est-ce que vous avez envie de répondre aux gens qui trouvent que la science est trop compliquée, peut-être un peu inaccessible ?
Que la science, on peut la pratiquer à différents niveaux. On peut être chercheur, je ne le suis pas. Et puis, on peut être simple et curieux de la nature. Et c'est déjà ça. On est déjà un petit peu chercheur, on est déjà un peu scientifique. Hein, le fait de regarder une fleur pousser, s'intéresser aux oiseaux, aux insectes qui sont dans votre jardin. On fait déjà un peu de la science. D'ailleurs, si les oiseaux vous intéressent, vous avez un programme qui s'appelle Observatoire des papillons. Voilà. Et donc, vous pouvez indiquer, c'est très très simple, les papillons que vous voyez chez vous, en une heure, combien de cette espèce et de cela. Il y a plein de documents qu'on peut retrouver dans ce programme. Et ça aide à connaître justement l'évolution des populations. Et justement, l'évolution est plutôt négative à l'heure actuelle. Vous le savez, tout simplement de tout ce qu'on parle aujourd'hui, tout ce qui est pesticides, tout ce qui est intrants chimiques qu'on met dans les cultures et qui malheureusement détruisent et voilà, ne ciblent pas toujours bien les espèces. Voilà.
Et Aaron, tu voulais rebondir ?
Oui, j'aurais une petite d'autres questions. Vous avez dit que vous n'êtes pas chercheur. Vous travaillez, c'est quoi le nom à peu près exact de votre travail du coup ?
Médiateur scientifique.
Médiateur scientifique.
Médiateur, ça vient de média, un média qui veut dire être entre deux. Voilà. Ah. Ah, la radio ici, là, nous, c'est un média. Elle est entre deux. Elle est entre l'information d'un côté et les gens qui cherchent à avoir l'information.
D'accord.
Et les gens qui travaillent à la radio sont des passeurs d'information.
Ben, je vous remercie.
Voilà.
Moi, je pense que j'ai fait le tour de mes questions.
Merci.
Eh ben, merci à nouveau beaucoup à Romuald Coutenceau, merci à Ron et merci à Léa de l'École de la Deuxième Chance pour ces excellentes questions. Et merci beaucoup à Adrien également qui était présent sur le plateau pour participer aux questions.